les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba 30.
Lui-même est au milieu de nous, comme on l'a déjà entendu ce matin. Il veut nous bénir tous, il veut nous garder tous et il veut nous sauver tous. Je vous invite pour ce matin à ouvrir votre Bible dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 6, où nous lirons les versets 10 à 18. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, où nous lirons les versets 10 à 18. Éphésiens 6, 10 à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez atteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, qui est la parole de Dieu. Jusqu'ici, la lecture des Écritures. Le titre de notre prédication, le bon combat de la foi. Et j'aimerais partager avec vous quelques pensées sur le thème suivant. Les armes de Dieu pour le bon combat de la foi. Le combat que nous avons à mener, c'est le bon combat de la foi. Le combat lié à notre statut de soldat de Jésus-Christ et qui est un combat spirituel. Un combat spirituel de la plus haute importance. Car si nous luttons selon les règles, nous serons couronnés et notre récompense sera grande dans les cieux. C'est pourquoi, en tant que bon soldat de Jésus-Christ, il est utile et nécessaire de connaître l'ennemi, de se revêtir des bonnes armes et de savoir les manier intelligemment et à bon escient, afin de triompher, de tout surmonter et de rester debout, ferme et inébranlable dans la foi que nous confessons et professons. Ce matin donc, nous voulons considérer brièvement qui est notre ennemi et ce qu'il fait, avant de méditer sur le bon combat de la foi et d'examiner attentivement les armes spirituelles que Dieu met à notre disposition et qui proviennent toutes de son arsenal divin, c'est-à-dire de sa parole. Ceci nous conduit donc à notre premier point que j'intitule « L'ennemi » ou « Les ennemis », vous pouvez les mettre au pluriel. L'ennemi que décrit Paul ici est en fait toute une armée, à la tête de laquelle se trouve Satan, le grand adversaire de Dieu, le menteur, le destructeur des œuvres de Dieu, l'ennemi de nos âmes, qui rôde comme un lion rugissant autour de nous, cherchant quelle proie il pourra dévorer, afin de calmer sa folie guerrière et meurtrière, et de ne pas laisser toute son armée, tous ses esprits mauvais et méchants, inactifs et désœuvrés. En effet, Le diable domine sur ce monde par sa puissance diabolique, par les autorités démoniaques investies de ses pouvoirs corrompus par le mal. Il domine aussi par les princes de ce monde de ténèbres et par les esprits méchants et mauvais dans les lieux célestes qu'il a établis pour accomplir sa sale besogne. Détruire et anéantir tout ce que Dieu fait et conduire les hommes vers la perdition éternelle. Je dirais deux choses au sujet du diable. D'abord, ce qu'il est, ensuite, ce qu'il fait. Brièvement. Ce qu'il est. Il est l'ange déchu, le chef de l'armée des ténèbres, le père du mensonge, l'instigateur du mal, le représentant de la mort, l'initiateur de la haine, de la violence, du meurtre. Bref, il est le serpent ancien, le grand dragon, assoiffé de sang, avide de pouvoir, obsédé par le mal, dont le seul but est la destruction du monde, et pour lui la fin justifie les moyens. Aussi, il est mauvais et méchant au plus haut degré. Toutes les fibres de son être satanique ne sont que mensonges, tromperies, et ses pensées sont uniquement tournées vers le mal. Il n'y a absolument rien de bon en lui, ni de beau. Il est entièrement et totalement corrompu par le mal, plein de haine, de violence, de meurtre envers Dieu, envers Jésus et envers son Église. Deuxièmement, ce qu'il fait. Puisque l'origine de son être maléfique, que la nature de son être est maléfique, puisque tout en lui n'est que réalité maléfique, effective et efficiente, il est évident que tout ce qu'il peut dire et faire ne sera que mauvais et méchant, dans toute son ampleur, conformément au mal qui conditionne cet être néfaste que Dieu a voué à l'enfer éternel. Sachons donc que rien, ni de bien, ni de bon, ni de beau, ni de vrai, ni de pur, ni de noble, ni de juste, ni quoi que ce soit qui soit digne d'être dit ou vécu, ne peut venir de lui. Par conséquent, si tel est notre ennemi, tel il est aussi quand il règne sur le monde, qu'il a servi à son joug, et tel il est encore quand il subjugue notre âme, notre nature charnelle par le moyen du péché, c'est-à-dire par les tentations de toutes sortes qui nous assaillent, par la corruption, qui existe dans le monde et dans notre cœur à cause de la désobéissance originelle. C'est pourquoi, averti par le Seigneur, instruit par sa parole, nous ferons diligence. Et nous combattrons avec intelligence, afin de ne pas nous laisser vaincre par l'adversaire, par ses ruses, par sa perfidie, par ses paroles trompeuses, séductrices, autant que destructrices, qui font la guerre à notre âme. Mais nous veillerons et nous prierons, afin de résister au diable et de tenir ferme envers et contre tout. C'est possible ? Oui, par la grâce de Dieu. Ceci nous amène à notre deuxième point que j'intitule le combat. Il y a guerre entre Dieu et Satan, entre le mal et le bien, entre le ciel et la terre. Et nous sommes partie prenante dans cette bataille spirituelle parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes ouvriers avec Dieu, travaillant avec lui, sous ses ordres, afin de lutter, quoi ? Contre le mal, de mettre en évidence le bien et de manifester par nos paroles et par nos actes la victoire spirituelle et éternelle de Dieu sur le mal, par la croix de Jésus-Christ, lequel a triomphé de l'ennemi d'une manière éclatante par sa vie, par sa mort et par sa résurrection d'entre les morts. Et si Paul nous dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre des êtres humains, corporels et naturels, c'est bien la preuve que notre combat n'est pas charnel, mais spirituel, non selon la pensée et la sagesse et la force humaine, mais selon la pensée, la sagesse et la volonté de Dieu. L'histoire de Job montre d'une manière excellente la nature de ce combat. Le diable veut détruire Job à tout prix, l'accuser de tous les maux par l'intermédiaire de ses amis qui le culpabilisent à tort et à travers d'avoir commis toutes sortes de péchés. Relisez le livre de Job et à la fin vous vous rendrez compte que ce que disent les amis de Job est complètement à côté de la plaque. Et si Job n'avait pas prié pour ses amis, Dieu les aurait condamnés. Mais Dieu soutient son serviteur Job, non parce qu'il serait sans péché, mais parce qu'envers et contre tout, il fait confiance à Dieu. Et Dieu honorera sa confiance en le rétablissant dans son ancienne situation et condition. Et Job avait pu dire, dans sa confiance envers Dieu, « Je sais que mon Rédempteur est vivant. » Le bon combat de la foi n'est donc pas un combat contre des gens, des personnalités, contre leurs idées humaines, contre la science, contre leurs paroles et leurs actes, mais c'est un combat entre la pensée de Dieu et sa volonté, et la pensée du diable est sa volonté. Ce sont des pensées contre des pensées, des paroles contre des paroles, et c'est pourquoi c'est un combat spirituel dans lequel Dieu veut amener captive à son obéissance, veut amener toute pensée captive à son obéissance. Et le bon combat, et le combat, pardon, de David contre Goliath illustre parfaitement cela. On connaît tellement bien cette histoire que je n'ai pas besoin de tout raconter. Goliath avait lancé un défi à Israël. Il avait prononcé des paroles arrogantes. Il avait insulté l'armée du Dieu vivant, disant que l'armée du vaincu sera asservie à l'armée du vainqueur, et il répéta son défi pendant 40 jours. Et pendant 40 jours, personne n'a osé personne n'a osé se battre contre lui. Et voilà que David arriva, le petit berger dont on se moquait gentiment. David arriva, et contre les idées et les paroles de Goliath, il proclama quoi ? Attention, moi j'ai des muscles, hein ? Non ? Et contre les idées et les paroles de Goliath, il proclama la pensée et la parole et la volonté de Dieu et annonça d'avance que la victoire appartient à l'Éternel afin que le monde sache qu'Israël a un Dieu. Un point, un trait. Le Dieu vivant est vrai, celui qui est au-dessus de tout et au-dessus de tous, comme on l'a déjà entendu dans les prières ce matin. Ainsi, l'enjeu de ce combat n'était pas un enjeu matériel, mais spirituel. Il s'agissait de savoir qui serait maître de qui, mais Israël, les croyants, n'ont que Dieu pour maître, en Jésus le Sauveur, préfiguré ici par David, qui vainquit le géant Goliath. La preuve, c'est que David, discernant l'enjeu spirituel du combat, refusa les armes matérielles de Saül. pour s'élancer sur le champ de bataille avec les pierres de la parole de Dieu, au nom du Dieu vivant, sachant pertinemment bien que la volonté de Dieu, c'est qu'Israël soit esclave, non des Philistins, mais de l'Éternel. Quand nous connaissons la volonté de Dieu et quand nous sommes prêts à l'accomplir, immanquablement, invariablement, Dieu nous donne la force de le faire. Si David était allé en son nom, je vous dis, sa main aurait tremblé. Et ce n'était pas certain qu'il vise à la bonne place. Parce qu'il n'y avait qu'une petite possibilité ici de tuer le géant Goliath. Mais David courut sur le champ de bataille, fit tournoyer sa fronde, lança la pierre, et sa main n'a pas tremblé. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui a conduit sa main. Parce que c'est Dieu qui a visé et que la pierre a touché juste là, dans le défaut de la cuirasse du grand Goliath qui s'effondra, mort sur le coup. Et David lui coupa la tête. Bien sûr, ce sont des hommes qui incarnent les idées et les pensées de la sagesse humaine. C'est pourquoi ce sont des hommes qui s'affrontent et confrontent leurs idées et parfois se font la guerre. Mais les croyants ne font pas la guerre contre des hommes. Ils proclament l'évangile de Dieu, déclarent Dieu Seigneur et Sauveur du monde et par là détrônent le diable et ses princes. Et si parfois, hélas, les autres leur font la guerre, les persécutent, voire même les tuent, c'est parce qu'ils sont les esclaves de Satan et qu'ils obéissent à leur maître, aveuglés, égarés par le péché. D'ailleurs, serions-nous meilleurs que les autres ? Jamais de la vie. Même un croyant est capable de tout s'il se laisse aller. Le bon combat de la foi est donc un combat spirituel. Et remarquons bien ceci. Par rapport au combat spirituel, David savait ce que Dieu voulait. David voulait ce que Dieu voulait. Et enfin, David pouvait ce que Dieu voulait. Avons-nous bien compris ? Ai-je bien compris ? Je répète ce que je disais tout à l'heure. Si nous voulons ce que Dieu veut, si nous savons ce que Dieu veut, et si nous voulons ce que Dieu veut de tout notre cœur, et que nous sommes prêts à le mettre en pratique, au prix de notre vie s'il le faut, immanquablement, invariablement, sans condition, sans discussion, Dieu nous donne la force et la sagesse de faire sa volonté. Et nous triomphons à tous les coups. Mais uniquement par le moyen de la parole qui sort de la bouche de Dieu et qui accomplit toujours ce qu'elle ordonne, car par elle tout se fait et sans elle rien ne se fait. Combien souvent j'ai voulu faire sans la parole, et je l'ai appris à mes propres dépens. Et si c'est par la parole spirituelle de Dieu que David a vaincu, c'est pour bien montrer que nous n'avons pas à lutter nous-mêmes contre Satan et ses puissances ténébreuses, car nous ne sommes pas de taille à combattre l'ennemi au corps à corps. Et nous n'en avons ni les moyens, ni la force, à cause du péché qui est en nous et qui nous rend vulnérables au plus haut point. C'est pourquoi Jésus lui-même, préfiguré ici par David, est venu lier l'homme fort, lui écraser la tête selon la promesse de Genèse 3:15, c'est-à-dire lui ôter son pouvoir de domination, de destruction et de mort. Désormais, en ce qui nous concerne, bien que le combat de la foi soit rude parfois, l'ennemi est... Pardon ? Amen. L'ennemi est vaincu. Nous luttons contre un ennemi vaincu. Et notre victoire promise par Jésus est la victoire de la foi, victoire que Jésus nous donne lorsque nous combattons selon les règles, d'une manière spirituelle et non charnelle. Cependant, il faut le dire et le redire, ce combat n'est pas de tout repos. Il n'est pas facile. À vrai dire, il est impossible. Oui, mais alors Dieu nous demande-t-il l'impossible ? Non. Il est impossible à notre nature humaine, charnelle et pécheresse, car c'est uniquement par la foi, par la parole de Dieu, par la victoire de Christ que nous triomphons à notre tour et pour la seule gloire de Dieu. En effet, nous avons toujours tendance à tout faire par... Quand j'étais petit, je disais, papa, tu peux me réparer ici ? Papa, tu peux me refaire ça, j'ai tout cassé. Quand j'avais 12 ans, puis que mon papa me disait, Joseph, est-ce que je peux t'aider ? Qu'est-ce que je disais ? Non, mais papa, qu'est-ce que tu crois ? Je suis assez grand, non ? Nous avons toujours tendance à vouloir faire tout par nous-mêmes. Selon notre propre sagesse, notre propre force, et bien entendu, de cette manière, nous ne pouvons que nous incliner devant plus fort que nous et constater et accepter notre défaite si nous luttons avec nos propres armes charnelles. Je répète une troisième fois, seulement quand je sais vraiment ce que Dieu veut comme il le veut, que je veux faire ce qu'il veut comme il le veut, alors je peux faire ce qu'il veut, comme il le veut, par la seule puissance de sa parole, et ainsi toute gloire revient à Dieu. Nous nous rendons compte alors que ce combat qui nous incombe de fait nécessite une préparation rigoureuse, un entraînement sérieux, car nous avons besoin de toute la force de Dieu pour revêtir toutes les armes de Dieu et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et que dit Paul ? Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est dire à quel point nous sommes incapables par nous-mêmes, même de revêtir, seulement de revêtir les armes de Dieu. Puisqu'il faut toute la force de Dieu, rien que pour les revêtir. Nous retrouvons ici toute la dimension spirituelle de la vie chrétienne, notre relation personnelle avec Dieu, notre communion intime et profonde avec lui, et notre relation avec lui par sa parole, car ce n'est que par notre vie de prière, de communion avec lui, par l'étude et la méditation de sa parole, que nous recevons la force et la sagesse qui nous permettent de nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Et je le dis, selon la Bible, selon mon expérience aussi, il n'y a pas de raccourci possible. Il n'y en a pas. Nous remarquons encore une fois que la Sainte Guerre est une guerre spirituelle, que le combat dans cette guerre est spirituel, qu'il se mène avec des armes spirituelles que nous ne pouvons revêtir que par la parole spirituelle de Dieu, vivante et permanente et agissante, parole qui nous donne force et sagesse pour nous préparer et nous équiper en vue de la lutte qui est la nôtre, la lutte contre le mal et le péché, et pour la gloire de Dieu en faisant le bien. Il ne s'agit pas seulement de lutter contre le mal, il s'agit par-dessus tout de faire le bien. Rejetez le mal, dit l'apôtre Paul, et attachez-vous fortement au bien. Car sans cette guerre, pas de combat. Sans combat, bien entendu, pas de victoire. Victoire, je répète encore, qui ne se remporte qu'avec les armes de Dieu. Et pas de victoire, pas de couronne, et pas de couronne, pas de récompense et de gloire éternelle. C'est pourquoi l'apôtre Paul insiste tellement sur la nécessité impérieuse de nous préparer, de nous fortifier dans le Seigneur, dans sa parole qui se révèle à nous par la puissance de l'Esprit, lequel nous instruit et nous conduit et nous rend capables, forts et vaillants et courageux pour nous revêtir de toutes les armes de Dieu et de les utiliser selon les règles de la foi. Ceci nous amène à notre troisième et dernier point que j'intitule « Les armes ». Il sera plus bref. La manière dont Paul énumère les armes de Dieu dont nous devons nous revêtir nous fait comprendre qu'il y a comme un cadre composé de la vérité, de l'épée de l'esprit qui est la vérité, la parole de Dieu, et que dans ce cadre se trouvent toutes les armes de Dieu, la cuirasse de la justice, les chaussures de l'évangile, le bouclier de la foi, le casque du salut. En fait, toutes les armes mentionnées ici sont des armes spirituelles, des paroles qui sortent de la bouche de Dieu, paroles qui sont connaissance et puissance divine, qui, lorsque nous les utilisons correctement, sont des paroles qui agissent dans notre cœur et notre esprit et nous donnent force et sagesse selon les besoins du moment. Et Jésus n'a pas lutté autrement. Face au diable dans le désert, trois fois il a dit, deux fois il a dit, il est écrit, et une fois il a dit, il est aussi écrit. Je précise, la ceinture de la vérité tient et maintient et entretient toute l'armure du soldat. L'épée de l'esprit qui est parole de Dieu peut tout, elle accomplit l'impossible de Dieu quand nous faisons notre possible. À l'impossible, disent déjà les gens de ce monde, à l'impossible, qui connaît la suite? Mais bien sûr, à l'impossible, nul n'est tenu. Et ayons quand même un petit peu, de confiance en Dieu, que Dieu a quand même un tout petit peu de bon sens pour ne pas nous demander l'impossible, mais tout notre possible. Et lui, il fera alors l'impossible. L'impossible que j'aimerais faire, moi, pour me glorifier. Mais il n'y a pas besoin. Le Seigneur m'a mis au pied du mur. Hé, hey, mon petit Joseph, piano, piano, piano. Hein. Il m'a laissé dans la marmite assez longtemps pour que ce soit bien cuit. Et puis que j'ai plus besoin de dire, j'ai un Seigneur, j'ai fait. J'ai rien fait. C'est le Seigneur. Oui, j'ai fait mon possible. Mais le Seigneur a fait l'impossible. Le casque du salut, les chaussures de l'évangile, la cuirasse de la justice et le bouclier de la foi sont des éléments de cette parole qui nous révèlent le grand salut de Dieu à notre égard, et comment nous pouvons rester en paix devant l'adversaire qui voudrait nous déstabiliser, nous dérouter face à ce si grand salut. Et je mentionnerai une arme dont nous allons développer quelques éléments brièvement, pour terminer. Une arme, la cuirasse de la justice. Parce que je me suis dit, il faut quand même au moins une arme, hein, pour ce matin. Une arme. Vous êtes d'accord? On va encore pour une arme? Une des premières armes que met le soldat, me semble-t-il, c'est la cuirasse. Peut-être que la ceinture se mettait pour attacher les sous-vêtements, peut-être qu'elle servait aussi à ceindre toute l'armure et sur laquelle on accrochait encore l'épée. Bref, la cuirasse de l'armure couvre le corps et protège le soldat et ses organes vitaux. De même, la cuirasse de la justice protège le croyant contre les attaques du diable qui voudrait accuser les élus de Dieu et porter atteinte en leur cœur aux éléments vitaux qui assurent aux croyants que la justice de Dieu leur est imputée sans condition et pour toujours. Quand le diable vient te reprocher ton passé et te déstabiliser quant à l'assurance de ton salut, qu'est-ce que tu fais ? Et Paul dira dans Romains, qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Je termine par une histoire. Un jour, dans la grande salle du palais de justice céleste, il y avait un grand débat fort animé. Au centre des discussions, un accusé de marque, Josué, le souverain sacrificateur, qui devait comparaître devant le tribunal de grande instance pour être jugé par le juge suprême, l'Éternel lui-même, car il avait sali, souillé sa robe de grand prêtre, il avait péché et par conséquent, il devait être condamné. Un point, un trait, voilà! Au cours de ce débat plutôt houleux, on demandait si Josué avait des chances d'être acquitté. Les uns disaient, Dieu lui pardonnera bien sûr, puisqu'il est son serviteur. Les autres rétorquaient que Dieu ne fait exception de personne et que sa justice est absolument conforme à sa vérité qui dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc il sera déclaré coupable et condamné à la peine éternelle. Mais voilà qu'au milieu de ce débat passionnant, la porte de la justice, de la salle de la justice, s'ouvre enfin. Josué, accompagné de ses gardes, entra et alla prendre place sur le banc des accusés. Le grand inquisiteur du pays des ténèbres, l'accusateur des frères, procureur général des condamnés à mort, arriva aussi. Puis, lorsque l'Éternel, le grand juge suprême, passa la porte, toute l'assistance se leva. Il était suivi par l'avocat de la défense, Jésus, le sauveur du monde, l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Le juge s'assit sur son trône et Jésus prit place aux côtés de l'accusé. Le jugement pouvait commencer. Le procureur général, l'accusateur des frères, se leva et présenta tous les chefs d'accusation en sa possession et s'écria au nom de la loi, l'accusé est coupable, il doit être condamné. Et les jurés, princes des ténèbres, esprits mauvais et méchants, déclarèrent tous en cœur, il est coupable, il est coupable, il est coupable. Et l'Éternel, juge suprême, acquiesça, il est coupable, car il a péché et le péché ne peut pas rester impuni. Malheur, malheur, malheur. L'assistance était abasourdie. Un silence de mort régna dans la salle. Tout le monde était dans l'expectative. C'est alors que Jésus, l'avocat de la défense, se leva et dit d'un ton assuré, « Objection, votre honneur. « C'est vrai, dit-il, Josué a péché, il est coupable, mais j'ai payé. Père, vois les marques des clous dans mes mains et mes pieds et mon côté percé. Mon sang a été versé, Mon côté percé, oui, mon sang a été versé. Ta justice a été assouvie, elle est satisfaite, et on ne juge pas, on ne condamne pas deux fois pour le même crime. Par conséquent, votre honneur, cet homme est justifié par sa foi. Ma justice lui est imputée. Il est donc par sa foi. Ma justice lui est imputée. Il est donc. Amen. Alléluia. Il est donc libre. Toute l'assistance poussa des cris de joie et l'accusateur des frères s'en alla vaincu à jamais. Quand le diable vient te reprocher ton passé, t'accuser de certains péchés, t'enlever ton assurance, que fais-tu? Oh ben, je rame. Je dis, qu'est-ce que je peux faire? Hein? Non. Que fais-tu? Tu te lèves et tu dis, il est écrit. Et tu racontes l'histoire de Josué, du souverain sacrificateur. Et tu repars libre, content, heureux, à jamais. Amen.
Eh bien, merci. Nous avons effectivement à revêtir cette armure et nous avons la force qui nous est donnée aussi par notre Seigneur de résister à l'ennemi. Nous pourrions chanter encore le cantique 277 « Avançons toujours joyeux ».